aujourd'hui.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En Égypte, la juge Radwa Helmi est devenue le 5 mars 2022 la première femme à siéger au Conseil d'État. Elle a été choisie parmi 98 femmes pour intégrer cette institution. Le pays compte de nombreuses avocates, mais il a fallu des décennies avant qu'une femme ne devienne juge. La seule à l'avoir fait est Thani Al-Ghebali, qui a été désignée en 2003 pour intégrer la Cour constitutionnelle. Elle a occupé le poste pendant 10 ans avant d'être démise de ses fonctions en 2012 par l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Aucune loi en Égypte n'interdit aux femmes d'accéder à ces postes, mais l'usage veut que les juridictions soient exclusivement composées d'hommes. Le président Joe Biden a nommé le 25 février 2022 la juge afro-américaine Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême des États-Unis, qui doit encore franchir l'étape de sa confirmation par le Sénat. Elle devient le deuxième juge noir de l'institution après la nomination de Clarence Thomas par George Bush père en 1991. Monsieur Biden a personnellement fait passer un entretien à 3 magistrates noires en concurrence. Ketanji Brown Jackson siège à la Cour d'appel fédérale de Washington, un tribunal considéré comme un tremplin. Elle remplacera le magistrat Stephen Breyer, qui prend sa retraite fin juin. Ketanji Brown Jackson sera la 4e femme juge à la Cour suprême, avec Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Amy Coney Barrett. 2 ont été nommées par Barack Obama, 1 par Donald Trump et 1 par Joe Biden. Les talibans nous ont pris le ciel et la terre, s'est désolée une militante du groupe Unité et Solidarité Femmes lors de la Journée internationale des droits des femmes en Afghanistan. Depuis leur retour au pouvoir en 2021, les islamistes ont à nouveau balayé 20 ans de liberté conquises par les femmes, qui sont désormais exclues des emplois publics, interdites de voyager seules, entre autres contraintes. Le ministère de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice a remplacé celui des Affaires féminines. Des militantes ont été assassinées et certaines ont disparu. Les autorités nient toute implication. Début 2022, des organisatrices de rassemblements ont été arrêtées et détenues au secret. Aucun événement public n'était programmé pour marquer la journée. Un groupe de femmes a été interdit d'effectuer collectivement un lâcher de ballon, chacune devant le faire individuellement chez elles. Un groupe de femmes prévoyait de donner leur sang dans un hôpital, mais ont aussi essuyé un refus, le directeur de l'établissement affirmant que le don du sang par des femmes n'est pas autorisé selon la charia. Au Pakistan, des milliers de femmes se sont rassemblées dans les grandes villes pour la Journée internationale des droits des femmes, encadrée par une forte présence policière. Les marches du 8 mars sont généralement mal accueillies dans ce pays depuis la première édition en 2018. Le calme a prévalu pour la première fois, bien que les mouvements islamistes aient dénoncé ces marches. En 2020, ils avaient lancé des pierres sur les manifestantes à Islamabad. L'administration locale de Lahore a demandé d'annuler la marche, menaçant de ne pas fournir de services de sécurité, mais un tribunal a ordonné qu'elle ait bien lieu. Des contre-manifestations dites marches hijab ont aussi été organisées par des groupes religieux extrémistes. Au Pakistan, des femmes sont encore sauvagement tuées, brûlées vives ou lapidées en public par leur propre famille.
Parole de femme.
Le thème de la Journée internationale des droits des femmes cette année est l'égalité des genres aujourd'hui pour un avenir durable. En Côte d'Ivoire, la célébration du 8 mars est aussi placée sous le signe de l'égalité des chances pour un avenir durable. Un reportage de Delphine Bowies à Abidjan.
Elles sont défenseuses de l'environnement et championnes de la terre, mais aussi femmes entrepreneurs. Le monde compte sur elles pour contribuer au développement, a expliqué Madame Félicité Coutouan, directrice de l'entrepreneuriat féminin au ministère ivoirien de la famille, de la femme et de l'enfant.
L'égalité pour la durabilité, c'est ainsi qu'on doit comprendre le thème de cette année. Pour permettre aux hommes, aussi bien qu'aux femmes, de participer ensemble à la réalisation du développement durable. Pour que l'humanité soit dans un développement qui soit pérenne, un développement pour les générations futures.
Dans le village de Motiamo, dans la région du Gontougo, département de Bondoukou, dans l'est du pays, des femmes ont fait de la poterie leur spécialité. La responsable de la coopérative nous parle de leurs activités.
Yeliyawa, à Motiamo, on fait poterie là, c'est poterie de Motiamo. On fait canari, on fait tarier. Ce qu'on prend pour préparer à quelqu'un là, on fait aussi encore. Et puis, ce qu'on prend pour faire kézé nous là, on fait encore.
Nous assistons à leur journée de travail.
C'est asile, ce qu'on prend pour ménager là.
Voilà ça. Tu vois ça là.
On ménage comme ça, avec asile là, pour piler. Ça c'est caillou. On pile 6 cailloux. Mm-hmm. Après, ce qu'on prend pour piler photo là, comme on appelle, pilon. Uh-huh.
Comment vous travaillez ici?
On travaille à femmes, groupement. Tous les mots Tiamou là, c'est leur travail. C'est ça que nous on fait ici.
Écouler les produits finis n'est pas facile. Et les femmes disent ne pas gagner grand chose. Mais elles ne baissent pas pour autant les bras.
À Bonoukou. C'est là-bas qu'on vend. On sent ça sur notre tête.
Et vous gagnez combien par jour?
Ce que tu vas charger là, ce n'est pas beaucoup. Peut-être si ce n'est pas 2000 francs, c'est 2500.
Autre lieu, autre réalité, nous sommes avec l'Union des femmes de Natis, département de Vavoie. Madame Sigi Catherine, sa présidente.
Tout qu'on organise, apprendre la femme à se prendre en charge. Et puis, on s'occupe aussi de l'épanouissement de la femme en milieu rural. Nous allons voir si nous pouvons avoir des financements pour pouvoir rehausser le niveau de leur commerce.
Quel regard jette le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant sur l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire? De nouveau, Madame Félicité Coutouan, directrice de l'entrepreneuriat féminin.
Selon l'agence Côte d'Ivoire PME, les femmes sont à tous les niveaux. L'entrepreneuriat féminin est dynamique. Nous les retrouvons à 67% de la main-d'œuvre agricole, où elles produisent environ 80% des ressources vivrières qui assurent notre alimentation du pays.
Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Au Tchad, les activités marquant la Journée internationale des droits des femmes et la Sénafet, la Semaine nationale de la femme tchadienne, prennent fin le 8 mars. Durant toute la semaine précédente, les femmes des institutions étatiques et associatives se sont relayées pour se faire entendre à travers des manifestations socio-culturelles. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, s'est intéressé aux difficultés que rencontrent les femmes du secteur informel pour leur survie.
Je fais de la peinture, des banderoles, des portraits et je forme aussi les jeux. Je ne peux pas estimer combien ça me rapporte parce qu'on vit avec le jour au jour, quoi. C'est avec ça que j'ai acheté ma moto, c'est avec ça que j'ai nourri mes enfants. Et dans ce métier, c'est pas facile de se lever un bon matin comme ça et puis gagner quelque chose. Il faut toujours la persévérance.
Madame Daman, peintre de formation, elle explique au micro de VOA Afrique son parcours et son projet à moyen terme.
J'ai un oncle là, c'était un peintre. Et à la maison, quand il y a des choses à faire, on faisait le pochoir avec lui et c'est comme ça j'ai aimé le métier. Au début, c'était pas facile. Parce que quand j'avais commencé ma formation à l'artisanat, j'avais fini. Je suis allée faire le stage avec un peintre, mais or, c'était un peintre bâtiment. Alors, j'étais obligée de faire la peinture bâtiment avec lui. Les hommes venaient pour me regarder quand je montais sur l'escabeau pour travailler. On me décourageait toujours, quoi. Mais après ça, je suis allée au Burkina. J'ai fait 4 ans là-bas. Quand je suis revenue, j'ai ouvert aussi mon atelier. Mon projet à l'avenir, c'est vraiment de m'asseoir et essayer de former les jeunes et vulgariser mon art.
Un autre groupe de femmes qui ne savent ni lire ni écrire se tourne vers le secteur informel. Elles affirment pouvoir gagner leur vie et exhortent leurs sœurs à faire autant.
Je remercie Dieu. Avec mon commerce, je mets 2 fois. Je prends en charge ma famille aussi et mes enfants. Pour le moment même, j'ai envoyé mon fils en études. Je conseille à mes sœurs de se débrouiller, quoi. Rester à la maison sans rien faire, là, c'est pas bon. Comme nous les autres, on se défend nous-mêmes. Il faut que les femmes même sortent pour aller chercher et puis aider leur mari.
Pour Diane Abbey, artiste et musicienne, la femme tchadienne joue un rôle très important dans la société traditionnelle, mais elle estime qu'elle est sous-estimée par certains hommes.
Dans le milieu artistique, j'étais la première fille DJ à être formée par l'Institut français. Et quand j'ai commencé par jouer sur la platine, certains artistes disent non, quand une fille est DJ, c'est une prostituée. On te traite de tout, quoi.
S'appuyant sur son propre exemple, elle plaide pour l'autonomisation des femmes, pour leur prise en charge.
Avec la comédie, je m'en sors très bien parce que moi j'ai fait l'hôtellerie. Des fois quand je postule dans les restaurants et que je ne suis pas vite employée, je peux jouer une séance et gagner facilement 100 000. La femme, c'est elle qui donne l'éducation. La femme, elle fait beaucoup de choses à la maison, mais toujours, elle n'est pas respectée. Donc si la femme, elle est autonome, elle se prend en charge, elle prend ses décisions, elle éduque bien ses enfants.
La Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2022 se célèbre sur fond de crise politique et institutionnelle. Politique parce que les autorités de transition chancellent encore dans le processus de l'organisation du dialogue national inclusif, pouvant jeter les bases d'une refondation de la nation tchadienne. Crise institutionnelle suite aux conflits intercommunautaires qui ont endeuillé plusieurs familles dans les provinces du Wadaï et du Moyen-Chari et dont les parents et avocats des victimes attendent que justice soit rendue. André Koduma Dingar Njamena pour VOA Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique. Une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Le groupe kényan d'aide aux réfugiés Refugee organise un défilé de mode international virtuel pour les femmes réfugiées. Les organisateurs affirment que les recettes serviront à aider les femmes déplacées fuyant les conflits en Afrique centrale et orientale et à défendre leurs droits. Les détails avec Rosine Mounetzero.
Elisabeth Ya semble à l'aise sur la passerelle. La robe qu'elle porte pour le défilé de mode Refugee de cette année porte son nom et raconte l'histoire de sa jeune vie.
Dans notre culture, lorsque vous avez vos premières menstruations, votre famille vous offre un très long collier. Si vous venez d'une famille riche, il est long, plus long, comme ça. Et si vous venez d'un milieu modeste, il doit être juste un peu plus court.
Yor Gideon avait 13 ans lorsqu'elle a fui son pays natal, au Soudan du Sud, il y a 10 ans, pour échapper à un mariage arrangé. Elle n'avait pas encore reçu son collier, mais le défi Refugee lui a donné l'occasion de vivre cette tradition. Selon la styliste Monica Canary, la mode peut aider les autres à apprécier les cultures répressives que vivent de nombreuses jeunes filles.
J'ai dit que nous allions donner à Yar le bijou le plus long possible parce que sa valeur ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de vos circonstances ou de ce qui se passe, mais elle vient de ce que vous êtes en vous-même.
Yar Gideon travaille actuellement comme mannequin et styliste. L'objectif de Refugee est d'aider les filles et les enfants réfugiés à s'adapter à leur nouvelle vie à Nairobi après être arrivés de pays en conflit, comme l'a fait Yar Gideon. L'organisation à but non lucratif propose une éducation, une formation économique et un soutien émotionnel et mental. Et elle adopte une approche holistique par le biais de la création de mode.
Les filles de notre programme ont la possibilité de travailler ici. Elles sont en mesure de gagner un revenu et d'acquérir des compétences commerciales et de leadership. Ces modèles sont donc teints à la main par les filles du programme. Ce sont elles qui créent les motifs et chaque motif porte le nom des filles qui l'ont créé.
Selon Madame Canary, l'événement de mode montre ce qui est encore possible, même si les choses semblent obscures.
Parfois, on se dit, je suis condamnée, c'est fini, c'est fini. Je ne peux pas jouer. Je ne peux plus être une jeune fille. Je dois être une épouse. Je pense qu'il est très important que chaque jeune reçoive ce message. Ne vous laissez pas limiter par vos circonstances. Si vous le voulez et que vous pouvez trouver un moyen, saisissez cette opportunité pour faire un bond en avant vers autre chose.
Les recettes de l'événement serviront à aider les milliers de filles qui cherchent un refuge à Nairobi, au Kenya.
Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a ordonné un recensement des conducteurs de mototaxi après l'agression d'une jeune femme par plusieurs d'entre eux. Dans une vidéo publiée sur Internet, une femme crie au volant de sa voiture alors que plusieurs chauffeurs de mototaxi l'agressent, lui retirant ses vêtements après un accident de la circulation. La police a procédé à plus de 200 arrestations, dont 16 en lien avec l'incident. Lors d'un discours à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, M. Kenyatta a dit avoir ordonné de punir les auteurs de l'agression. L'activité de mototaxi n'est pas une licence pour déshabiller et retirer la dignité des femmes, a-t-il lancé. Les chauffeurs de Boda Boda ont été classés en 2019 comme menace pour la sécurité nationale par un service du ministère de l'Intérieur. Direction le Cameroun, à plus de 300 km de Yaoundé, à Bagandé, plus connu sous le nom de Kilombo 1 dans la région du Sud. C'est là-bas que vit Solange Ngobakoumé, une activiste qui défend les droits fonciers et l'accès aux ressources naturelles. Elle est issue de la communauté Bagieli, un peuple autochtone originaire de la forêt qui se dit marginalisé et victime d'abus de l'agro-industrie. Voici son portrait signé Emmanuel Jimtap, notre correspondant à Yaoundé.
C'est en 2010 que Solange Ngobakoumé a été désignée par les siens porte-parole pour dénoncer, entre autres, l'accaparement des terres par les agro-industries de l'EVEA et de l'huile de palme dans le campement Bagili.
Ce qui nous fait mal dans ça, c'est que l'État n'a pas pris compte à notre mode de vie. L'État n'a pas regardé que comment notre avenir de nos enfants serait demain. Donc c'est vraiment un problème qui on ne sait pas si ça va s'arranger. Ou peut-être si ce n'est pas nous qui allons bénéficier de ça, peut-être nous, l'avenir de nos enfants, eux vont bénéficier de ça.
Solange Ngobakoumé, la trentaine révolue, est mariée et mère de 5 enfants. En prélude à la Journée internationale de la femme, elle a pris la parole une nouvelle fois à Yaoundé, devant les représentants de l'administration et des bailleurs de fonds internationaux, pour exprimer le mal-être de la communauté Bagili du Sud Cameroun.
Vous n'ignorez pas que l'homme Bagili vit de l'achat et de l'accueil, et ainsi de suite. La pharmacopée, c'est nous. Donc beaucoup de choses, la pêche, c'est nous. Mais quand nous perdons beaucoup de choses comme ça, on n'a plus un mode de vie normal.
Les Bagili sont un peuple autochtone qui vivait jadis en forêt. Mais les pouvoirs publics les ont incités à quitter leur milieu naturel pour cohabiter avec les Bantous. L'activiste Bagili Solange Ngobakoumé soutient que cette cohabitation est devenue houleuse au fil du temps.
J'ai mes frères bantous partout qui me menacent, qui me montrent les doigts. Oh, toi, depuis qu'on t'a nommé dans le village ici, tu veux te montrer maintenant que tu connais déjà beaucoup. Tu es déjà devenu ceci, comment nous vivons, comment ceci, la terre. J'ai parlé ça. Quand le monde était au courant de ça, on m'a convoqué ici. On va me porter plainte, on va me tuer, on va me faire ceci. J'ai été menacé partout. Les gens me montrent seulement les doigts. Toi, là, tu es parti parler à la radio, ceci. Donc, le travail que je fais là, j'ai les menaces partout.
Les dénonciations faites par Solange Ngobakoumé commencent à porter des fruits à la grande satisfaction de sa communauté. Mathieu Wala est un jeune Bagili du village Bagandé, dans le sud du Cameroun. Je suis fier du travail que Solange est en train de faire.
Étant jeune, j'en suis vraiment fier. Je suis fier du travail qu'elle a là-bas. Ça me donne la joie, ça me donne un avenir. Ça donne aussi un avenir à nos enfants. Le village, la communauté, tout le monde est content du travail qu'elle fait. Pour parler de nos droits, grâce à l'activisme de Solange Kobakoumé, certains campements Bagili ont désormais des points d'eau potable et un accès gratuit aux soins de santé. De même, les agro-industries ont été contraintes de revoir leur politique environnementale et de renoncer à l'extension de leurs plantations dans les 10 villages. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Au Burundi, les autorités ont célébré la Journée mondiale des droits des femmes à Rumonge, dans le sud du pays. À l'occasion de la journée du 8 mars, notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, est allé à la rencontre de certaines femmes qui vendent dans la rue des légumes, des fruits et autres produits vivriers pour joindre les deux bouts.
Dans le quartier de Mutanga Sud, en commune de Mukaza, Bujumbura, Belize Ishimwe, mère de 2 enfants, 22 ans, se concentre sur son petit commerce d'avocats et reconnaît être contente de la célébration de cette journée spéciale des femmes, même si son quotidien est difficile, avec un capital journalier de moins de 2 dollars américains.
Quand c'est le 8 mars, nous sommes très contentes, mais je n'oublie pas mes problèmes d'argent. Personnellement, j'achète des avocats pour 2000 francs burundais, équivalent de 1 dollar américain. Je les vends par pièces. Certains jours, je peux les vendre tous, d'autres jours, pas du tout. Mais je m'arrange pour que mes enfants aient à manger quotidiennement. Ces avocats sont vendus sur cette route. C'est juste le début car je n'avais pas de capital suffisant. Et j'avais emprunté 2000 francs burundais pour commencer.
Belize Ishimwe aurait augmenté son capital pour accroître ses revenus. Jeanne Nivitanga, elle, 38 ans, élève seule ses 4 enfants. Elle vit dans une maison d'une chambre sans toilette dans les quartiers Mogoboka. Son mari l'a abandonnée il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle s'adonne corps et âme au pilage et à la vente des feuilles de manioc tant prisées à Bujumbura.
Je n'ai personne pour m'aider, même pour avoir le capital. Pour commencer à vendre ces feuilles de manioc appelées isombe, c'était difficile. Je vis des dettes quotidiennes. Pour vendre ces feuilles de manioc, de temps en temps, je le fais dans les rues, souvent dans les parcelles des maisons mitoyennes pour que mes enfants survivent. C'est vrai, nous vivons difficilement avec mes enfants. On peut entendre dire souvent que c'est la fête des mamans. Mais moi, personnellement, je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas d'argent pour m'asseoir avec ces autres mamans. J'écoute le début et la fin de cette fête sans y participer.
L'ancienne journaliste Annick Nsabimana est aujourd'hui activiste des droits des femmes, en même temps gestionnaire d'une entreprise de communication et de production visuelle. Elle s'efforce d'assister les femmes et les filles nécessiteuses.
L'aide que nous essayons d'apporter consiste en fait à sensibiliser d'abord ces femmes pour qu'elles s'organisent en association ou en coopérative. Quand elles s'organisent en association ou en coopérative, elles sont formées sur comment lever des fonds, comment tenir une activité génératrice de revenus, comment gérer leurs revenus, faibles revenus, mais comment savoir les gérer. Donc l'éducation financière aussi, comment ouvrir des comptes bancaires. Quand elles avalisent mutuellement, elles peuvent avoir accès au crédit. Alors c'est dans ce sens-là que nous sensibilisons beaucoup les femmes de ne pas travailler isolées, mais d'essayer de se retrouver en groupe de femmes.
Brigitte Nshimirimanaël est représentante légale d'un réseau d'aide filles aux victimes des violences et d'injustices sociales. Elle a créé un centre d'entraide dans la commune urbaine de Ndrangwa au quartier Kamenge. Son objectif principal, accompagner les jeunes filles et femmes.
Nous essayons d'aider les femmes les plus vulnérables, c'est-à-dire ce genre de femmes qui courent toujours avec des paniers sur la tête, qui vendent des oranges, des tomates, des avocats. Nous avons décidé de créer un espace Wahonawe pour garder ces enfants, parce que des fois c'est difficile de courir avec des paniers, mais aussi courir avec des enfants, l'un au dos, d'autres dans les mains. C'est comme une garderie temporaire. Donc ce n'est pas un orphelinat, mais c'est juste pour les aider. Il y a quelques fois que les agents de sécurité les empêchent de rester en ville. Et comme elles n'ont pas même les moyens pour louer une place pour travailler, ils sont toujours dans la rue. Donc notre contribution d'abord, c'est de les garder leurs enfants. Et après, on leur donne des formations pour qu'ils puissent savoir comment gérer les petites activités.
La situation de ces jeunes filles et femmes de la capitale économique Bujumbura n'est pas différente de celle des millions d'autres dans l'intérieur du pays. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.